Voilà, bien, on va parler de ce Jazz à Vienne, 40e édition, avec son directeur artistique, Benjamin Tanguy. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, on va parler de ce très beau livre qui est sorti, 40 ans de Jazz à Vienne. Je pense que ça n'a pas été très simple pour faire un résumé, parce qu'en 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses depuis que Jean-Paul Boutelier avait lancé cette idée.
C'est une histoire assez longue, assez riche en souvenirs, et c'est vrai qu'on avait envie de raconter ces 40 ans, et on s'est plongé dans les souvenirs, dans les émotions de Jazz à Vienne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce livre s'appelle Jazz à Vienne, 40 ans d'émotions. Et on a surtout fait un gros travail d'archives, c'est-à-dire qu'on s'est plongé dans les archives de Jazz à Vienne. On a retrouvé plein de très belles photos, d'articles de presse, et puis surtout on a été aussi du coup chercher des témoignages. Donc il y a 15 témoignages d'artistes qui ont marqué l'histoire du festival depuis 1980, comme vous l'avez dit, avec sa création par Jean-Paul Boutelier. Et depuis, bah, l'histoire continue, elle évolue, elle se modifie, elle se lutte, elle se rencontre avec d'autres styles de musique, mais en gardant toujours cet ADN de défendre tous les jazz pour tous les publics.
Oui, alors j'ai feuilleté ce livre que j'ai trouvé très très beau, bien sûr, des photos magnifiques, des textes. On peut dire que à Jazz à Vienne y est passé pratiquement tous les grands jazzman de la planète.
Je crois que oui, en effet, Jazz à Vienne est devenu une étape indispensable et très importante pour les musiciens afro-américains, et notamment les musiciens de jazz, qui ont eu toujours une porte grande ouverte pour défendre leur projet. Et c'est vrai, quand on se plonge dans l'histoire du festival, on se rend bien compte que c'est toute l'histoire du jazz, en fait, des années 80 jusqu'à maintenant, qui s'est vu accueillir dans ce théâtre antique ou dans les différentes scènes du festival. Et on se rend bien compte qu'on a eu la chance d'avoir tous ces grands musiciens-là. Et c'est vrai que aussi on se rend bien compte que Jazz à Vienne a toujours été aussi un festival très ouvert aux autres musiques qu'on appelle les musiques cousines. Les plus grands noms de la musique brésilienne sont passés sur cette scène. C'est la même chose avec la musique cubaine, avec le blues, avec le funk. Et je crois que cette ouverture et cette envie de défendre cette musique-là, qui est riche et qui est très diverse, en fait du coup un festival très intéressant et un peu à part quand même par rapport à tous les festivals en France.
Oui, cette ouverture était pratiquement obligatoire pour un peu se diversifier, parce qu'on sait qu'on a vu qu'il y a d'autres festivals aussi qui sont, alors, comme vous disiez, hein, c'est les musiques un peu cousines, mais bon, ça a peut-être donné une nouvelle impulsion à ce festival.
En fait, pour vous dire la vérité, la première soirée, l'édition 0 de Jazz à Vienne était une édition de blues, où B.B. King est venu jouer, non pas dans l'enceinte du Théâtre Antique, par exemple, mais dans un Magic Mirror qui a été installé, qui a eu un très beau orage, et que du coup, l'organisation a décidé de l'organiser dans deux Magic Mirror. Donc, juste pour vous dire que dès le début, le blues avait sa place, évidemment, à Jazz à Vienne, puisqu'on sait que c'est la musique mère du jazz, et puis même de toutes les musiques qu'on écoute actuellement. Mais que très rapidement, une soirée afro peut aussi être sa place, une soirée salsa, la soirée funk également, le gospel. Bref, vous dire que, en fait, dès le début, il y a eu cette envie de la part du fondateur, Jean-Paul Boutelier, de défendre ce qu'on pourrait appeler les musiques black, ou en tout cas d'influence africaine. Et il y a un slogan qui est défendu par Jazz à la Villette, et je trouve qu'il nous correspond bien aussi. C'est Jazz and Great Black Music, c'est-à-dire le jazz et puis la bonne musique, la musique noire, c'est issu du continent africain. Donc voilà, c'est cette ouverture là qui a toujours fait partie de l'histoire de Jazz à la Villette.
Pour revenir rapidement sur ce très beau livre, il a reçu un bon accueil un petit peu partout, ça, il s'est bien vendu.
On l'a lancé tout début juin. Il y a du coup une belle promotion, en tout cas. Merci en tout cas pour ce retour sur ce livre qui a nécessité plus d'un an et demi de travail. Et là, on le vend évidemment sur le festival. Et on a des très bons retours, on est extrêmement contents. Là, ce qui est génial, par exemple, c'est qu'on le montre aussi aux artistes. Par exemple, hier soir, je l'ai offert à Ibrahim Alouf, qui était très heureux de le recevoir. J'ai discuté avec le percussionniste guadeloupéen Roger Raspail, qui était sur la scène du Théâtre Antique en 83 et qui était super ému de voir que le concert auquel il avait participé était cité dans ce livre-là. Donc on a, c'est vrai, des bons retours à la fois des artistes, des journalistes et du public qui sont assez émus de se replonger dans l'histoire du festival.
Oui, puis comme on dit, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, hein, bien sûr.
C'est le plus important, il est disponible dans toutes les bonnes librairies, sur le site internet du festival également.
Alors on va parler un peu de ce festival de 2021, on sait que le Covid a joué des tours. Alors même celui-là paraît pas facile parce que il y a des artistes qui ont décliné ou qui n'ont pas pu venir, donc il faut remplacer dans l'urgence. C'est pas trop compliqué pour un directeur artistique?
Je vous avoue que j'ai pas passé des très bonnes nuits sur les derniers mois. Ça a été une très longue préparation, assez difficile à mettre en place, parce que on avait vraiment fait le choix de se lancer dans l'organisation du festival et on voulait vraiment pas renoncer à cette décision. Donc on a tout fait pour faire ce festival, malgré, voilà, comme vous avez dit, les conditions très difficiles, liées notamment aux restrictions dans certains pays, l'Angleterre évidemment, les États-Unis, le Brésil, même certains pays africains, et que du coup, en fait, si on reprend toute la programmation du premier jour jusqu'au dernier, sur chaque artiste, il y a une histoire à raconter, pourquoi on a réussi à le sauver, pourquoi il est là, et pourquoi certains artistes ne sont pas venus. Il y a une explication derrière chaque artiste, et il n'y a pas une explication générale, globale. C'est-à-dire que c'est ça qui était très compliqué. C'est-à-dire que généralement, quand on monte une programmation, on se préoccupe peu de sa venue, on va dire, physique, sur le festival, puisque du coup, on a des agents qui font ce travail-là et on a une confiance totale. Mais là, les agents étaient aussi inquiets que nous pour faire venir les artistes et donc du coup, on était pleinement associés à toute leur logistique de venue liée justement à ces restrictions.
Et alors bon, on voit quand même que le public répond présent.
Ça, je vous avoue que c'est l'élément le plus marquant et le plus émouvant, c'est de retrouver ce public qui a été privé de concert depuis plus d'un an et demi pour certains, qui retrouve avec beaucoup d'émotion le Théâtre Antique, les artistes, l'ambiance, le festival aussi. Après, les restrictions sont encore présentes avec notamment jusqu'au 29 le pass sanitaire. Pardon, la distanciation sociale et le port du masque du coup, en mode festival. Et par contre, on a ce pass sanitaire qui est obligatoire sur la totalité du festival. Et ça, c'est du coup assez contraignant pour nous, les organisateurs, mais surtout assez contraignant pour le public. Parce que, on le sait, la totalité des Français ne sont pas vaccinés, évidemment, et que du coup, il y a cette obligation de présenter ce pass sanitaire qui exprime en fait le fait que du coup, on n'est pas dangereux pour la population, pour les personnes autour de nous. Et donc, il y a deux solutions. Soit on est doublement vacciné plus 14 jours, soit on présente un test PCR de moins de 48 heures, ou alors, du coup, on a eu le Covid et donc, du coup, on a fait un test et qui prouve que du coup, on est immunisé. Donc ça, c'est assez contraignant pour le public, puisque du coup on n'est pas un festival de 2-3 jours, où, du coup ça serait pas très lourd pour les festivaliers. Là, on est sur un festival qui dure 16 jours, on a un public de fidèles, un public qui vient plusieurs fois, des patriots, des passes intégrales. On le sait, on a toujours cette tendance à Jazzavia, c'est-à-dire que si la première semaine se passe bien, que les concerts sont bons, le public revient sur la deuxième. Et malheureusement, du fait de ces restrictions-là, ça ne pousse pas obligatoirement le public à venir en festival. Après, on a mis beaucoup de choses en place, notamment des tests en journée dans l'enceinte du théâtre antique, pour justement les abonnés. Mais après, on fait tout pour vraiment faciliter leur venue au festival.
Alors, vous êtes en jauge restreinte ou dans le théâtre antique ou pas ?
Jusqu'au 29, nous sommes sur une jauge équivalente à peu près à 60%. Donc, typiquement, un concert comme Ibrahim Malouf, on était sur une jauge à 3008. Sur ces deux concerts, on sera à 3008. Après le 30, clairement, ça s'ouvre plus, notamment pour le concert de Thomas Dutronc et Callis Wood. On sera à peu près à plus de 5000 personnes.
Alors, et port du masque obligatoire dans le théâtre antique ?
Jusqu'au 29 aussi également. C'est-à-dire qu'après après le 30, le port du masque, même lors des grands événements, n'est plus obligatoire et conseillé, mais n'est plus obligatoire.
D'accord. Donc, ce qui va un petit peu laisser aux gens, parce que c'est vrai que rester 2h30 ou 3h avec le masque, puis. Et assis, bien sûr. Hein. Après, non, ça sera plus obligatoire non plus d'être assis hein, après le 30.
C'est ça. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe dans la nuit du 29 au 30, mais en tout cas, on va retrouver, un festival plus classique, dans le sens où ce qu'on avait fait pendant toutes ces années, c'est-à-dire un festival où on peut se mettre en assis debout, un festival où il n'y a pas de masque, un festival où il n'y a pas de distanciation sociale. La seule chose qui va rester, c'est en effet ce pass sanitaire.
Oui, parce qu'on sait quand même que Jazz à Vienne, hein, on le voit, hein, qu'il y a eu des grands moments, hein, donc où les gens sont debout, dansent, applaudissent, mais sont debout. Et puis on ne peut pas rester assis parfois quand il y a certaines musiques qui arrivent, hein, notamment quand on parle du Brésil, quand on parle un peu de tout cela, c'est difficile de rester collé sur son siège. Hein.
Exactement, et je crois que aussi le public a besoin de retrouver cet esprit de communion, de vivre à l'instant ensemble, et les festivals sont aussi là pour ça, et on le voit bien hein, sur les premiers concerts de cette édition, on sent que les artistes ont besoin de retrouver leur public, et le public a besoin de retrouver les artistes, ont besoin de retrouver les artistes.
Bien écoutez Benjamin, merci d'avoir été avec nous, hein. Je sais que vous avez un emploi du temps très très serré. On va vous laisser avec tous vos tracas, hein, parce qu'il y en a sûrement encore qui vont arriver. C'est jamais simple quand on s'occupe d'un gros festival comme ça. Mais nous, on était ravis de vous avoir, hein, comme toutes les années. Nous, on adore Jazz à Vienne, bien sûr. Et encore une belle réussite. Et puis, on rappelle ce bouquin pour les amateurs de jazz. Eh bien, vous allez vous régaler. Il y a des photos magnifiques. Il y a du texte sensationnel. Et puis, il y a certains. Eh bien, ça leur rappellera des souvenirs, parce que je suis sûr qu'il y en a qui viennent depuis 40 ans.
Tout à fait.
Merci Benjamin d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée à vous.
Au revoir.